Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress.
Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
Antoine Joubert est chroniqueur automobile pour le Guide de l'auto. Salut Antoine.
Salut.
Il y a toutes sortes de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment des fois des vidéos qui sont publiées sur TikTok. Puis là, il y en a qui inquiètent plusieurs milieux policiers parce qu'on voit comment voler des véhicules de deux marques. On parle de Kia et de Hyundai, mais avec un simple fil USB.
Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a découvert ça. Tu sais, tout ce qui se fait se défait. Et on le dit depuis longtemps en ce qui concerne les systèmes anti-vol des constructeurs automobiles. Mais aujourd'hui, les véhicules, c'est de plus en plus de l'informatique. Ce qui veut dire que pour les gens qui, dans le passé, étaient plus mécaniciens ou débrouillards sur le plan technique d'un véhicule, ben voler un véhicule, c'était peut-être un jeu d'enfant. Aujourd'hui, c'est de l'informatique. Et il y a des failles dans les systèmes. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, il y a quelqu'un qui avait pris le contrôle de façon informatique d'un Jeep Cherokee et qui en avait fait un véhicule téléguidé. C'est-à-dire distance, on avait réussi à prendre le contrôle d'un véhicule qui était en fonction et la personne qui conduisait son véhicule n'avait plus le contrôle. C'est quelqu'un d'autre qui le conduisait à sa place. Et c'est que de l'informatique. Donc, il y avait une faille qui avait été découverte par un crack informatique et évidemment Chrysler a réglé le problème depuis, mais c'est une question de temps avant que ça ressurgisse. Et là, ben on a un autre exemple de ça. Il y a quelqu'un qui a réussi à craquer le système chez Hyundai Kia et à découvrir que avec un simple fil USB, on était capable de voler un véhicule. Et là, ben évidemment, il y a des gens qui ont vu ça sur les réseaux sociaux, se sont essayés, se sont amusés. Est-ce que ça sera un truc qu'on va utiliser via les réseaux professionnels de vol de véhicules à suivre? Et c'est drôle que je te parle de ça en ce moment parce que je me trouve à bord d'un véhicule présentement tout près du port de Montréal où je regarde des conteneurs probablement remplis de véhicules prêts à exporter. À chaque fois que je passe devant le port de Montréal, ça me fait penser à ça.
Ben oui, c'est clair.
Mais il en demeure pas moins que, oui, il y a une faille chez Hyundai Kia qui affecterait des véhicules allant jusqu'à 2018, semble-t-il. Il y a un véhicule 2021 ou 2022 qui aurait été volé aussi comme ça, mais ça semble plus isolé. Enfin, oui. Moi, je ne suis aucunement expert, évidemment, mais c'est un problème auquel il va falloir remédier chez Hyundai Kia, c'est clair. Puis, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu découvres une faille comme ça, tu partages ça en 30 secondes, puis il y a des milliers, voire des millions de gens qui ont accès à cette information-là.
Ouais, puis faudra voir, puis tu l'as souligné, puis c'est vrai, parce que est-ce que les réseaux de vol vont se servir de ça? Puisque présentement, notamment avec nos clés intelligentes, là, il y a toutes sortes de façons de faire qui font en sorte que même si, par exemple, nos clés sont sur le petit meuble d'entrée, le voleur est à l'extérieur, la maison est barrée, ça les arrête pas, là. Ils sont capables de partir avec ton véhicule.
Mais ça, c'est quand même des réseaux qui sont équipés de dispositifs.
Oui.
C'est-à-dire, ça prend de l'équipement qui vaut plusieurs milliers de dollars, puis un savoir-faire pour arriver devant une maison, numériser une clé qui se trouve à l'intérieur de la maison et démarrer un véhicule. Là, un fil USB que tu achètes chez Dollarama, et le tour est joué. C'est pas la même chose. Là. Disons que ça donne accès à beaucoup plus de gens pour démarrer un véhicule.
C'est ça.
Va falloir remédier à la situation, ça c'est bien évident. Et je sais pas sur quel véhicule ça s'applique. Est-ce que c'est l'ensemble des modèles? Est-ce que ça exclut les électriques, par exemple? Bon, aucune idée. Mais bref, c'est sûr qu'un Hyundai Kia doit y voir et très rapidement.
Ouais. As-tu hâte au dévoilement de la nouvelle Mustang à Détroit?
Ben écoute, ça me réjouit un peu de voir que Ford continue de mettre des énergies dans cette voiture-là, parce que bon, on sait que c'est quand même un symbole mythique de la marque. Et ce symbole-là a peut-être été un peu atténué avec l'arrivée de la Mustang Mach-E. Et loin de moi l'idée de condamner l'arrivée de la Mustang Mach-E, parce que bon, fallait le faire, c'est beau. Mais on avait peut-être un peu peur que Ford vienne changer l'ADN de la vraie voiture Mustang, et ça ne semble pas être le cas. On voit qu'on a commencé à voir circuler des véhicules prototypes de cette future Mustang-là, et c'est confirmé, il y aura toujours un moteur 4 cylindres turbo compressé avec accessibilité à une boîte manuelle. Et il y aura toujours un moteur V8 5 litres dans la voiture qui, semble-t-il, pourrait atteindre 500 chevaux de puissance pour une version GT uniquement. On ne parle pas des Shelby, on ne parle pas des versions très, très haute performance. Mais là, on est à 460 chevaux avec un Ford Mustang GT. On grimperait ça à 500 et on va conserver non seulement la boîte manuelle, mais le moteur V8. Ce qui est un peu une surprise parce que évidemment Ford a quand même des moteurs 6 cylindres turbo qui sont très performants, mais l'acheteur d'une Mustang, c'est évident, il veut conserver un moteur V8. Et c'est souvent des jouets de week-end dans des Mustang GT, des trucs comme ça. Alors, puis de toute façon, à la quantité de véhicules électriques que Ford va lancer ces dernières années, ben, je pense qu'on peut se permettre de conserver cette voiture-là qui est mythique et qui est très importante pour la marque.
Ouais, je comprends. Ben oui, c'est iconique. Tes impressions sur le Genesis G2060?
GV60, je suis à bord de ce véhicule-là.
Ah oui, présentement? Bon.
Alors, c'est le premier véhicule électrique de la marque Genesis qui a le vent dans les voiles. VUS compact, pas particulièrement spacieux au niveau de la soute à bagages. C'est même un peu moins spacieux qu'une Ioniq 5, de laquelle ce véhicule-là reprend l'ensemble de ses composants mécaniques et structuraux, c'est-à-dire même plateforme, même batterie de 77,4 kWh. À peu près 400 km d'autonomie, un peu moins si tu prends le modèle le plus équipé parce que les jantes sont plus grosses, donc il y a plus de résistance au sol. Mais c'est quand même un véhicule super intéressant et le niveau de raffinement et de confort de ce produit-là est franchement impressionnant. Bon, évidemment, ça part à un peu plus de 71 000 $ pour un véhicule qui est, somme toute, très, très bien équipé. Mais on peut grimper à une version qui coûte tout près de 80 000 $ qui est une version performance, où là, on a deux moteurs électriques qui sont de puissance égale, c'est-à-dire 160 kW par moteur. Ça en fait un véhicule qui peut atteindre 518 chevaux de puissance pour une courte durée avec un mode boost. C'est très performant, mais les gens n'achèteront pas nécessairement ça pour la performance. Je pense qu'on veut se démarquer avec un look qui est assez hors norme et avec une conduite qui est très intéressante. Je trouve ça pas mal dans la mesure où, oui, c'est lourd, comme n'importe quel véhicule électrique, mais ce n'est pas dérangeant au niveau de la conduite. Franchement, c'est un véhicule qui est assez impressionnant. Le seul hic, c'est en raison de sa fourchette de prix, ben il n'est pas éligible au crédit gouvernemental.
Ben, c'est ça que j'allais dire. Alors, il y en a qui le choisiront pas uniquement pour cette raison-là, là.
Oui, il y en a qui ne choisiront pas pour cette raison-là. Par exemple, contrairement au Volvo XC40 ou au Volvo C40 qui, pour 2023, sera c'est-à-dire éligible au crédit en raison justement de la fourchette de prix, le modèle de base étant éligible, donc ça permet aux autres versions de l'être aussi. Mais là, avec un prix de départ à un peu plus de 70 000, c'est malheureusement impossible. La bonne nouvelle, par contre, c'est que la disponibilité, c'est quand même assez rapide. On parle de 6 mois, 8 mois pour mettre la main sur ce modèle-là. Alors, pour un véhicule électrique qui vient de débarquer sur le marché et qui ne coûte pas quand même 150 000 $, ben c'est pas si mal. Je te dis pas que c'est parfait, mais quelqu'un qui accepterait de payer ce prix-là, ben c'est quand même pas si mal. Et tu vois, ben écoute, c'est autonomie d'à peu près 400 km, comme je le disais. Mais les temps de recharge sur une borne, on peut aller chercher une recharge jusqu'à hauteur de 250 kW, donc recharger de 10 à 80% de la batterie en moins de 20 minutes. Donc, c'est quand même pas mal. Mais ça prend la borne pour le faire.
Oui, ça, c'est important. Tu parles de l'autonomie. J'ai une question générale. Mettons quelqu'un, là. Faut qu'il se rende à Québec à trois semaines. tu me vois venir. Autonomie, quelle autonomie minimale, là, tu suggérerais? Parce que, bon, on voit différents constructeurs. Il y en a que c'est 360, 400 kilomètres, quoi que ce soit. La barre, t'as à mettre où, toi, Antoine?
Ben, pour faire du Montréal-Québec assez souvent, là, pour faire des tests, moi, je me rendrai ce week-end avec le GV60 à Québec pour le présenter à Salut Bonjour Week-end. L'été, il n'y a pas de problème. L'été, 400 km, t'en as plus qu'il faut. Parce que tu vas rouler, bon, évidemment, un véhicule électrique sur autoroute, c'est pas là que c'est le plus efficace parce que tu ne régénères aucune énergie
avec en freinage
ou en freinage. Mais bon, évidemment, se rendre à Québec de Montréal, c'est environ 275 kilomètres. Tu le fais très, très, très facilement. L'hiver, c'est beaucoup plus périlleux. Parce qu'un véhicule qui a 400 kilomètres d'autonomie, ben l'hiver, avec des pneus d'hiver, en partant, tu viens d'affecter ton autonomie parce que tu as plus de résistance au sol et il y a la température qui entre en ligne de compte, ce qui veut dire que tu vas généralement passer à une autonomie de 250 à 275. C'est un peu trop juste.
C'est ça, faut que tu t'arrêtes en chemin, t'as pas le choix.
Ben, t'arrêtes en chemin, t'as pas le choix. Tandis qu'il y a certains véhicules qui vont offrir près de 500 km d'autonomie. Alors là, ça devient intéressant, parce que ton 500 l'hiver devient 350.
Ah.
Ça veut dire que tu peux quand même te rendre.
OK.
Et BMW est un constructeur qui actuellement propose des véhicules avec une autonomie de ce genre-là. Mm-hmm. Il y a également Hyundai qui propose une Ioniq 5 avec une autonomie de 500 km, mais c'est la version propulsée. Donc, c'est pas quatre roues motrices, ce qui devient un handicap pour certaines personnes.
Oui, tout à fait.
Par rapport à une version quatre roues motrices, tu gagnes 100 km. Alors, ça peut être un deal breaker, comme on dit en bon français, pour des gens qui souhaitent aller chercher un maximum d'autonomie. Mais je pense qu'il faudra surtout travailler chez les constructeurs, non pas à prolonger l'autonomie, mais à diminuer l'impact de l'hiver sur le rendement d'un véhicule. Si, par exemple, bon, on a un constructeur qui s'appelle Fisker qui s'en vient prochainement avec un véhicule qui aura des panneaux solaires pour recharger les accessoires du véhicule, ben si ces panneaux solaires-là sont capables de suffire au rendement du système de chauffage d'un véhicule électrique, par exemple, ben, ça veut dire que l'autonomie ne baisserait pratiquement plus durant l'hiver et que tu serais capable, avec 400 km, de te rendre quand même à Québec, même s'il fait moins 20 à l'extérieur. Et il faut avoir des batteries qui sont des moteurs plus performants, des batteries qui sont plus compactes pour alléger le poids d'un véhicule, parce que le poids affecte aussi le rendement. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je ne pense pas qu'il faut travailler à prolonger des autonomies à 600, 700, 800 km, parce que tu ne fais qu'alourdir un véhicule. C'est une technologie qui est à peu près inutile en ce qui me concerne. Oui, ça peut être pratique comme ça, mais je connais personne, moi, qui fait 700 km en ligne droite sans arrêter. Il y en a peut-être, là.
Ça fait des grosses journées.
Ils font des Montréal, Floride, là. Bon, peut-être. Mais parce que se rendre à Toronto, là, pour ceux qui se posent la question, c'est 525 km.
Ouais, OK.
Et avec certains véhicules électriques, c'est presque possible de le faire.
On est presque là. Mais vois-tu, Antoine, moi, c'est ce qui me freine avec, par exemple, tu en faisais référence tantôt, le Volvo C40 Recharge. Quand j'ai vu, moi, sur le guide de l'auto, cette nouvelle-là pour la version Core, je trouvais ça merveilleux. Mais là, après ça, je regardais l'autonomie, je suis encore en dilemme. Je sais pas ce que t'en penses.
Ben, l'autonomie va être à peu près de 375 l'été, autour de 250 l'hiver. Ça peut être efficace, là. C'est un peu juste pour faire du Montréal-Québec. Effectivement, il faudra s'arrêter durant l'hiver, ça c'est sûr.
Ouais.
Mais c'est quand même un produit qui est intéressant. C'est pas le véhicule qui a la meilleure autonomie. Mais quand on regarde ce que ce véhicule-là est capable de faire, puis on sait qu'un C40, ça peut être disponible quand même assez rapidement, je trouve ça pas mal. Versus, par exemple, un modèle Y chez Tesla, qui, lui, va offrir une autonomie nettement supérieure. Mais coûte beaucoup plus cher.
Ah, ben oui.
Tu vas l'attendre un an et demi.
Ah, tout
ça,
à fait.
C'est certain.
Ouais. Bon point.
C'est ça. Faut se poser la question. Actuellement, c'est ça. C'est la loi du marché. C'est qu'est-ce qu'on peut obtenir assez rapidement. Puis je pense que dans la majorité des cas, un véhicule électrique qui a 400 ou 375 km d'autonomie, ça fait amplement le boulot.
Ouais. Très bien, Antoine. Ben, toujours aussi éclairant, mon cher. Je te laisse poursuivre ta route. Et puis, on se reparle bientôt.
Ça marche.
Salut, Antoine. Bye.